Bonjour, chers frères. Pour vous montrer que les créateurs de nos smartphones ne respectent pas encore les jours saints, j'ai reçu hier un texte de ma femme, dictée vocale, sur le Nice to be much observed dans les jours de pain sans Zemmour. Je lui ai dit que le pain n'était pas si mauvais que cela. En fait, je l'aime bien. Si vous êtes comme moi, frère, vous avez été surpris d'apprendre que Genèse n'était pas l'écriture la plus ancienne de la Bible. L'écriture la plus ancienne en termes de temps chronologique dans le plan de Dieu. Vous avez probablement été surpris, tout comme moi, de découvrir que c'était dans le livre de Jean, entre autres, et c'est par là que nous allons commencer aujourd'hui. Jean, chapitre 1. En guise d'introduction à ce message, Jean 1. Nous voyons ici quelque chose. Nous voyons une époque bien antérieure à celle décrite dans la Genèse. Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole, bien sûr, est devenue Jésus-Christ, mais la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ils forment une famille. Elohim, la divinité. Le même était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie. Concentrez-vous sur le début du quatrième verset. En lui était la vie. Vous avez ces deux êtres qui ont toujours existé, d'une intelligence suprême, d'une capacité suprême. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, quand ils le voulaient, toujours en parfaite harmonie, en parfait accord, complètement comblés, n'ayant besoin de rien. En lui se trouvait la vie. La vie éternelle. Une vie surabondante. Pourtant, comme nous l'avons vu hier soir, la parole était prête à renoncer à tout cela. Pourquoi y renoncerait-il? Pourquoi? C'est étonnant. Il a pu aller du sommet de la vie jusqu'à prendre la forme d'un homme et mourir. Jean, chapitre 15. Toujours dans Jean. En lui était la vie. La vie ultime. Et ce même être, cette parole, qui nous parle tout au long de la Bible, a dit en Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Comme nous l'avons entendu hier soir, nous sommes ses amis. En fin de compte, il veut que tout le monde soit son ami. Il veut tout le monde. Le Père et Christ veulent que tous parviennent à la connaissance de la vérité et poursuivent ce que nous poursuivons. Mais il a dit qu'il n'y avait pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, et il l'a effectivement donnée. Il a renoncé à cette existence étonnante. L'amour, c'est l'agapé. L'amour, l'affection, la bienveillance. Il a tout abandonné. Un geste étonnant. Un geste qui ne rend pas justice, mais un acte d'amour étonnant. C'est la Pâque du Nouveau Testament aujourd'hui. Nous sommes toujours le 14, et nous allons parler de ce que Christ a enduré et, ce qui est sans doute encore plus important, de la raison pour laquelle il l'a enduré. Ce qu'il a enduré et pourquoi il l'a enduré. Il s'agit d'un sujet très vaste et aucun sermon ne pourrait lui rendre justice. Mais c'est le jour où il convient d'examiner ce que Christ a fait pour nous, comme nous l'avons fait hier soir. C'est donc ainsi que nous allons utiliser notre temps cet après-midi. Et pour ceux qui l'entendront dans le chant prévu après les vacances, c'est un sujet qui est au cœur même du christianisme et qu'il convient d'examiner à tout moment. Ce n'est donc pas comme si l'on ne pouvait en parler que lors de la 14e semaine d'Abib. Parce que ce que Christ a fait pour nous est vraiment le portail de toutes les choses que nous poursuivons en tant que chrétiens. Il rend possible tout ce que nous poursuivons en tant que chrétiens. Et nous y reviendrons. Mais si je fais mon travail aujourd'hui, un objectif très simple ici, si je fais mon travail, vous repartirez, Nous repartirons avec deux listes très faciles à réviser, deux listes, deux longues listes. Le premier est ce que Christ a enduré. Nous allons passer paragraphe une longue liste de style shotgun, juste bing, 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 bing de ce que Christ a enduré. Ensuite, nous passerons plus de temps à expliquer pourquoi il a enduré ces choses, pourquoi il les a toutes endurées. Deux listes. Il ne s'agit pas de listes de conseils pratiques ou de quoi que ce soit de ce genre. Elles sont simplement conçues pour magnifier ce qui a été fait pour nous. Pour élever nos esprits. Pour nous inspirer. Pour nous faire prendre conscience de ce que ces êtres ont fait pour nous. Pour élever notre pensée. Pour imprégner nos esprits de ce que Dieu veut que nous poursuivions, si je peux utiliser ce terme en ces jours. Remplir nos esprits de gratitude, de compréhension de ce qu'ils étaient prêts à faire en notre nom. La première liste est la suivante. À cette époque, la nôtre, Christ serait encore sur le bûcher. Il n'aurait pas encore été descendu avant la nuit à observer pour qu'il puisse rester dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits, comme cela avait été prophétisé. C'est aujourd'hui qu'il faut considérer ces choses, mes frères. Et il serait bon que nous le fassions. Pour la première liste de ce qu'il endure, je vous recommande de noter quelques mots et de donner la référence d'un verset. Vous pouvez vous y référer, mais je vais parcourir cette section assez rapidement. J'espère qu'ensuite, nous pourrons prendre une note, parcourir une page et voir tout ce que cet être était prêt à endurer en notre nom. Dans cette dernière liste, nous ferons plus de retournements, et nous les noterons bien sûr aussi. Mais ces listes sont davantage destinées à nous faire prendre conscience, sous une forme concentrée, de tout ce qu'il a vécu. Nous en avons beaucoup entendu parler hier soir, mais lorsque vous décomposez vraiment chaque élément, non pas que je puisse aller jusqu'à chaque élément, c'est accablant. Tout d'abord, le rejet et la solitude. Le rejet et la solitude. Et si vous voulez noter un verset pour cela, Ésaïe 53, 3. Nous étions dans Ésaïe hier soir, mais il dit, il est méprisé et rejeté par les hommes. C'est un homme de douleur et d'affliction. Il a joui de ce temps avec le Père pour l'éternité, et pourtant il est venu ici pour être rejeté et seul. Deuxième point de la liste, la trahison. Il avait tout, mais il était prêt à venir parmi les gens, à les enseigner. Il avait des hommes dont il était proche, avec lesquels il voyageait de ville en ville, en qui il plaçait une grande confiance. Il a passé beaucoup de temps à enseigner, mais il y avait un traître parmi eux. Nous pourrions écrire Marc 14, 10. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver le chef des prêtres pour le leur livrer. Voilà Dieu descendu sur terre et 30 pièces d'argent étaient plus attrayantes que d'apprendre de ce grand être. Trahi par un ami. La tentation. Ce n'était pas seulement la tentation d'abandonner à la fin. Nous savons que Christ a été tenté en tout point, mais qu'il n'a pas péché. Et ce n'était pas comme si, oh, si je pêche, je peux me repentir et passer à autre chose. Il a vécu chaque jour de sa vie en sachant que s'il commettait un seul petit péché, c'était fini pour vous et moi. Il n'était plus ce sauveur parfait qui pouvait être offert pour tous nos péchés collectivement. Hébreux 4, 15 est ce que vous voudrez peut-être noter à côté de celui-ci. Qu'en est-il des fausses accusations? Encore une fois, nous parcourrons cette première section au pas de course. Fausses accusations. Marc 14, 56, plusieurs portèrent contre lui un faux témoignage, et leurs témoins ne s'accordaient pas entre eux. Ils ne pouvaient pas mettre leurs histoires au clair parce qu'ils étaient des menteurs. Ils ont tout abandonné pour cela. La moquerie. Matthieu 27, 29. Ils lui mirent sur la tête une couronne d'épines, et ils se moquèrent de lui, en disant « Salut, roi des Juifs !» Pouvez-vous imaginer être aussi puissant que Christ, qui pouvait invoquer des légions d'anges, et vous soumettre à cela volontairement? Il n'a pas perdu son sang-froid, il a permis que cela se produise pour le plus grand dessein de Dieu. Il a permis que cela se produise pour nous. Il a permis que cela se produise pour nous. Moqué. Nous venons de le voir. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête, très vasculaire au niveau du cuir chevelu. Douleur immense, crucifixion, souffrance pour des péchés qu'il n'a pas commis. Pour cela, on pourrait noter 1 Pierre 2, 22 à 24, qu'il n'a pas commis de péché, et il n'y a pas eu de fraude dans sa bouche. Il ne s'est point trouvé de fraude dans sa bouche. Quand il injuriait, il n'injuriait plus. Lorsqu'il a souffert, il n'a pas menacé, mais il s'en est remis à celui qui juge avec justice, qui a porté lui-même nos péchés et son propre corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, et par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et la fin. Connaissez-vous ces 40 jours dans le désert dans Matthieu 4, afin qu'il puisse avoir la force spirituelle de résister au diable? Il n'a jamais eu à se priver en tant qu'être de Dieu, et pourtant il a choisi de descendre dans la faim, dans l'épreuve extrême. Et la soif? Les mêmes 40 jours, mais imaginez aussi les coups, les flagellations, la couronne d'épines, tout ce dont nous avons entendu parler hier soir. Quelle serait votre soif à la fin de cette épreuve? Et qu'est-ce que cela dit? Vous pourriez écrire Jean 19, 28. Ici, Jésus dit, j'ai soif. Et qu'est-ce qu'on lui a mis sous le nez? Du vinaigre. Si vous avez soif, si vous avez besoin de vous hydrater, le vinaigre est la dernière chose que vous voulez sur vos lèvres. La lassitude. Jean 4, 6. Il allait de village en village pour enseigner, constamment assailli par les foules. En voici un exemple. Jésus, Jean 4, 6, fatigué par son voyage, s'assied ainsi au bord du puits. Puis la dame est venue et il leur a parlé, mais c'était un être humain. Il s'est fatigué tout comme nous, mais il a travaillé sans relâche en notre nom. Les sans-abri. Matthieu 8, 20 dit, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Matthieu 8, 20. Le sans-abrisme. Les renards ont des terriers, dit Luc, mais le Fils de l'homme n'a pas de maison. Je résume. Le chagrin. Il est également dit dans Ésaïe 53 qu'il connaissait bien, qu'il connaissait le chagrin. La douleur. Il a été blessé pour nos transgressions. Ésaïe 23, à nouveau, la douleur. L'injustice de la mentalité collective. L'injustice de la mentalité de la foule. Matthieu 27, 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule. Ils ont excité la foule pour qu'elle s'en prenne à cet être qui n'avait rien fait de mal. La haine. Jean 15, 25. Vous pouvez écrire « Ils m'ont haï sans raison ». Sans raison. Encore une fois, pourquoi un être divin quitterait-il sa position d'élévation suprême pour descendre ici et endurer cela de la part de sa création? Il s'agit d'une déclaration extraordinaire sur son esprit, et nous y reviendrons. Il a enduré la jalousie des chefs religieux qui se sentaient menacés. Matthieu 27, 18. La jalousie, car il savait que c'était par jalousie qu'il l'avait livré. Il considérait que Christ marchait sur leurs plates unions. Il ne voyait pas en lui le chemin du salut. Ils l'ont vu comme un obstacle au pouvoir. La conspiration. Vous savez, les théories du complot abondent aujourd'hui. Eh bien, Le complot ultime, excusez-moi, c'était quand dans Matthieu 26, 3 et 4. La conspiration. Matthieu 26, 3 et 4. Les chefs des prêtres ont conspiré, ils se sont concertés pour s'emparer de Jésus par la ruse. Ils ont élaboré un plan, tout comme les gens élaborent des plans aujourd'hui. Mais il s'agissait d'un plan visant à tuer un être divin. Déni de Pierre, insomnie, sueur de sang, transpiration de sang. Luc 22, 44, sa sueur était comme de grosses gouttes de sang. Quelle agonie! Quelle angoisse il a dû ressentir en sachant que, si je ne fais pas cela parfaitement, tous ceux qui ont vécu et ceux qui vivront, y compris nous dans cette salle, n'auront aucune chance d'accéder à la vie éternelle. Quel poids énorme de responsabilité! Quelle prière a-t-il dû faire là, dans le jardin, pour que sa transpiration ressemble à de grosses gouttes de sang? C'est stupéfiant. Un chagrin immense. Matthieu 26, 38. Mon âme est extrêmement triste, jusqu'à la mort. Capture. Jean 18 sur 12. La bande s'empare de Jésus et le ligote. Ils l'ont attaché. On lui crache dessus. Matthieu 26, 67. Il lui crache non seulement dessus, mais au visage. L'une des plus grandes insultes, c'est de cracher au visage de quelqu'un. On lui a bandé les yeux. Luc 22, 64. Ils lui ont bandé les yeux. Il a été giflé. Matthieu 26, 67. D'autres le frappaient de la paume de la main, juste sur le visage. Battu. Luc 22, 63. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Il a été dépouillé. Matthieu 27, 28. Ils le dépouillèrent et le revêtirent d'un manteau écarlate. Verset suivant, 29. On s'est encore moqué de lui. Une fausse accusation. Nous avons vu qu'il a subi un procès truqué. Matthieu 26, 59. Ils ont cherché tous ces faux témoins. Les chefs des prêtres et les anciens ont cherché de faux témoins. Il a dû porter le pieu sur lequel il a été crucifié. Jean 19, 7. Il s'est effondré sous le poids des coups qu'il avait subis. Quelqu'un d'autre a dû le porter pour lui, Matthieu 27, 32. La crucifixion était une façon basse de mourir, réservée aux criminels et aux personnes en marge de la société. Il a dû porter cette honte. Il est dit dans Hébreux 12, 2. Il a enduré la croix, méprisant l'ignominie. Insulte de la part des criminels, du moins de l'un des criminels à ses côtés. Qui s'abaisserait à subir cela? Pourquoi? Incroyable. Moqué par les soldats qui l'ont transpercé. Abandonné par ses disciples. Matthieu 26, 56. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ses amis les plus proches, ceux avec qui il avait passé des années, certains avec qui il avait grandi. Au moment où il en a le plus besoin, il s'enfuit. Il a été constamment incompris, encore et encore. Les gens ne pouvaient pas comprendre ce qu'il disait. Cela était dû en partie au voile qu'ils avaient sur les yeux, mais ils ne pouvaient tout simplement pas comprendre ce dont il parlait, ou bien ils ne croyaient tout simplement pas en Dieu. On racontait constamment des mensonges à son sujet, Marc 14, 56. Des mensonges ont été proférés à son sujet. Beaucoup ont porté un faux témoignage contre lui. Voir aussi Matthieu 26, 60. Il a dû porter le poids du péché de l'humanité. Ésaïe 53, 6. Le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Lorsque nous péchons, nous ne nous sentons pas très bien. Nous nous repentons. Nous demandons à Dieu de nous pardonner. Nous essayons de dépasser ce sentiment de culpabilité. Imaginez que vous portiez le péché de tout le monde pour l'éternité. Ce que l'on doit ressentir. Se sentir abandonné par l'autre être de la divinité. Matthieu 27, 46. Sur le bûcher, il s'est écrié, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si cette liste semble longue, c'est qu'elle reste à dessein et que Dieu nous la donne à dessein. Et il n'y a vraiment aucun moyen de passer en revue chacun de ces points autrement que sous forme de fusil de chasse dans un seul message. Et encore une fois, c'est le jour pour le faire. Il n'est donc pas très orthodoxe d'aller point par point aussi vite que possible. Mais pour cette première liste, c'est le seul moyen de passer au travers. Il y en a tellement, tellement, tellement de choses horribles qu'il a endurées. Personne n'a eu pitié. Psaume 69, 20. J'ai cherché quelqu'un pour avoir pitié, mais il n'y en avait pas. Il a été traité comme un criminel. Marc 15, 27. Et avec lui, il crucifie deux voleurs. Il est compté parmi les transgresseurs. Il est accusé de blasphème. Matthieu 26, 65. Il a proféré un blasphème, ont-ils dit, dans une angoisse extrême. Il est dit dans Luc 22, 44, dans l'agonie, il priait avec plus d'ardeur. Jean 20, 25. Il a dû être cloué au bûcher. Les clous ont traversé ses mains. Si ce n'est que je verrai dans ses mains, dit Thomas. Le prince des clous, dans Jean 25. Nous montre qu'il a bien été cloué au bûcher. La suffocation sur la croix. Car si vous comprenez vraiment cet instrument de torture, vous ne pouvez pas respirer à cause de la façon dont vos pieds sont coincés et de la pression exercée sur votre cage thoracique. Regardez ses proches pleurer. Je n'y avais jamais vraiment pensé auparavant, mais Jean 19, 25. Regardez des êtres chers s'affliger, dit, or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère. Imaginez que vous regardiez le visage de votre mère alors que vous êtes sur le pieu. Cela intensifierait considérablement la douleur et la pression de ce que vous subissez. Voir d'autres personnes souffrir. Personne n'a pitié. Nous l'avons vu plus tôt. En fait, je n'ai pas assez exploré le contexte. Je suis sûr que les gens ont eu pitié, mais on les a laissés faire. On a laissé faire. C'est un jour horrible que nous commémorons aujourd'hui. C'était un jour horrible. Le jour le plus horrible de l'histoire, mais en même temps, le jour le plus merveilleux de l'histoire. Constamment incrédule, détesté par son propre peuple. Moqué, oh, le roi des Juifs. Éprouvé en permanence, flagellé brutalement Jean 19, 1. Pilate l'a fait flageller, alors qu'il n'avait rien à lui reprocher. Regardé, contemplé par ceux qui l'ont tué. Matthieu 27, 36, et s'étant assis, il le regardait. Abus verbal, commérage tout au long de sa vie, traité comme un maudit, car maudit est l'homme qui est pendu à un arbre. C'est écrit, je crois, dans les Galates. Moqué pour avoir fait confiance à Dieu. Bafoué par les spectateurs, et ainsi de suite. Vous pouvez en trouver beaucoup d'autres par vous-même. Nous nous éloignons de cette première liste. Il a connu un grand chagrin d'amour. Vous pouvez noter Matthieu 26, 38 pour cela. Il a dit, « Mon âme est dans une grande tristesse. » Il a été poignardé avec une lance, bien sûr. Il s'est chargé non seulement de nos péchés, mais aussi de nos peines. Enfin, il a rendu l'âme. Il a rendu son esprit. Il est mort. Il a renoncé à cette vie dont nous avons commencé à parler. Il a été obéissant jusqu'à la mort. C'est écrit dans les Philippiens. C'est un peu l'effet shotgun avec les versets, mais si vous n'incluez pas les versets, cela a encore plus d'impact dans mon esprit. Il s'agit d'un homme qui a enduré le rejet et la solitude, la trahison, la tentation, les fausses accusations, les moqueries, la couronne d'épines, la crucifixion, l'abandon, la souffrance pour un péché qu'il n'a pas commis, la faim, la soif, la lassitude, l'absence de domicile, le chagrin, la douleur, la mentalité de la foule et la justice, la haine, l'envie des chefs religieux, la conspiration, le reniement par Pierre, l'insomnie, la sueur de sang, l'excès de douleur, la capture, les crachats, le bandage des yeux, les gifles, les coups, le dépouillement, les moqueries, les fausses accusations, les procès truqués, le fait de porter sa croix, de tomber sous son poids, la honte publique, les insultes des criminels, les moqueries des soldats, la désertion des disciples, la peur de voir d'autres personnes comme sa mère, ou pas nécessairement la peur, mais l'angoisse regarder ses proches, regarder ce qu'il vivait. Être incompris, supporter les mensonges, les faux témoins, le poids du péché de l'humanité, se sentir abandonné. Il a été traité comme un criminel, accusé de blasphème, condamné alors qu'il était innocent. Il a volontairement traversé tout cela, une angoisse extrême, des clous plantés dans ses mains, l'étouffement sur la croix, voir ses proches s'affliger. Il s'agit d'un double. L'incrédulité des gens, la haine de sa propre nation, les moqueries sur son rôle de roi. Même si nous savons que c'est le rôle ultime qui lui revient de droit. Mise à l'épreuve par les pharisiens, incrédulité de la famille même, dit-on, en certains lieux. Fouet brutal. On lui fait boire du vinaigre. Agonie prolongée. Mort en fin de compte. Hypocrisie religieuse. Abus verbal, commérage, traitement de maudit, moquerie pour avoir fait confiance à Dieu, mépris des spectateurs qui regardent sa mort comme s'il s'agissait d'un sport. Mourir parmi les voleurs, souffrir de chagrin d'amour, s'éloigner du Père. Et ainsi de suite. On pourrait allonger la liste. C'est la première liste. J'espère qu'il est agréable de voir tout cela sous forme de liste. C'était le cas pour moi et c'est la seule façon de traverser tout cela. Si nous nous tournions vers chaque verset, comme nous le faisons normalement, nous ne pourrions pas apprécier le poids de ce qu'il a enduré. Nous allons nous tourner vers cette deuxième liste. Et dans cette deuxième liste, nous nous demanderons, pourquoi a-t-il fait cela ? C'est la première liste, voici la deuxième. Pourquoi a-t-il fait cela ? Nous comprenons que le vin est le pain que nous avons pris hier soir. Nous comprenons que Christ a institué le Nouveau Testament avec cette coupe, que nous sommes entrés dans une nouvelle alliance, un nouvel accord rendu possible par ce qu'il a fait, rendu possible par ce sang. Chacun d'entre nous a signé un contrat lors de son baptême, et c'est encore le cas dans un sens très large, mais il y a tant de détails dans ce contrat qui expliquent pourquoi Christ a fait ce qu'il a fait. Hébreux 12, 1. Allons-y. Hébreux 12, 1. C'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout poids et le péché qui nous assaille si facilement, et courons avec persévérance la course qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, pour la joie qui lui était proposée. Et ce que nous avons vécu hier soir était difficile, mais en même temps il y a un élément de joie qui ne peut être expérimenté à aucun autre moment de l'année. Qui, pour la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Une grande joie l'attendait. Une joie si grande qu'il était prêt à passer par toutes ces choses terribles que nous avons énumérées. Une joie l'attendait. Quelle était cette joie? Quelle était cette joie qui faisait que tout cela en valait la peine? Ce qui a fait que des années de lutte contre le péché ont culminé dans le jour le plus horrible de l'histoire. Qu'est-ce qui en valait la peine? Nous allons être très précis dans cette liste, et comme la première, elle ne peut pas être complètement exhaustive, mais nous allons faire de notre mieux dans le temps qui nous reste, parce que c'est le jour où il faut le faire. J'inviterai, encore une fois, cela m'a aidé peut-être à faire une liste pour la révision. Premier point de cette liste, il a enduré tout cela, tout ce que nous venons de vivre, pour démontrer l'amour du Père pour nous. C'est le premier point. Il a enduré tout cela pour démontrer l'amour du Père pour nous. Passez à Jean 3. Jean 3. Il a enduré tout cela pour démontrer l'amour du Père pour nous. Jean 3, au verset 14, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, le Père a tant aimé le monde. » Il s'agit d'un verset de qui est probablement utilisé plus que tout autre dans le christianisme dominant, et il peut être facile de dire, « Oh, tout le monde parle de Jean 3, 16, mais c'est un verset étonnant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Christ, tout ce qu'il a traversé est une démonstration de l'amour du Père envers nous. Romains, chapitre 5. Romains 5. Telle est la joie. C'est la joie qui a été placée devant Christ. Tout ce qui en résulte finalement pour vous et moi, il l'a fait pour nous. Si nous pouvons le dire simplement, il l'a fait pour nous. Romains, chapitre 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, au temps convenable, Christ est mort pour les impies, pour chacun d'entre nous. Car c'est à peine si l'on meurt pour un juste, et par aventure, pour un homme de bien, il y en a même qui oseraient mourir. Mais Dieu manifeste son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Le mot « commands » est intéressant. Il signifie « présenter » ou « exposer ». Ce que Christ a vécu était une introduction ou une exposition de l'amour que Dieu a pour nous, l'amour que le Père a pour nous. Bien sûr, nous avons vu que Christ a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour pour un homme que de donner sa vie pour ses amis. Christ a volontairement donné sa vie, mais nous devrions aussi avoir à l'esprit que le Père était prêt à se séparer de son Fils pour nous. Le Père était prêt à regarder tout ce qui se passait pour nous. Dieu manifeste son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est passé par tout ce que nous venons de lire au point 2 pour nous rendre innocents. Pour nous rendre innocents. Bon. Beaucoup de ces thèmes sont des thèmes évidents du christianisme, mais si nous les considérons tous ensemble, ils brossent vraiment un tableau. Il a traversé tout cela pour nous rendre innocents. Nous sommes toujours au verset 9 de l'Épître aux Romains, à plus forte raison, étant maintenant justifiés, c'est-à-dire rendus justes ou innocents, par son sang. Par ce sang qui a été versé lors de l'épreuve extraordinaire qui l'a conduite à rendre l'esprit, à plus forte raison, étant maintenant justifié par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous avons son exemple. Nous avons le Saint-Esprit qui a été envoyé après sa mort. Nous avons le pardon lorsque nous commettons des erreurs, nous sommes sauvés par sa vie, et non seulement cela, mais nous nous réjouissons aussi en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ que vous avez maintenant reçu et par lequel nous avons maintenant reçu l'expiation. Christ avait donc une joie qui l'attendait avec impatience, mais nous partageons cette joie parce que nous pouvons continuer. Il n'est pas mort en vain. Nous sommes transformés. Nous vivons une nouvelle vie. Nous vivons d'une manière qui nous permet de rejoindre ces deux êtres qui ont décidé d'agrandir leur famille. C'est une joie collective qui va au-delà du Christ qui, pour la joie qui lui était proposée, a enduré tout ce qu'il a fait. Nous partageons cette joie, comme il est dit dans Romains 5 et 11. Ceci est tout à fait lié à la réconciliation avec Dieu, point 3. Christ a enduré toutes ces choses pour nous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 5. Si le sang de l'agneau de la Pâque n'avait pas été mis sur les montants des portes dans l'ancienne Égypte, lorsque les Israélites fuyaient, les premiers-nés dans ces maisons seraient morts. On pourrait dire qu'Israël n'aurait jamais pu s'échapper. L'agneau qui était immolé pour chaque maison était, bien sûr, un type de l'agneau intime de Dieu dont le sang rendrait possible notre évasion de ce monde, dont le type est l'Égypte. Nous sommes et nous entrons dans une nuit très spéciale, où si nous écoutons cela sur le terrain, nous sortons de journées très spéciales pleines de leçons que nous devons emporter avec nous au-delà de ces jours. 2 Corinthiens 5 et verset 14, l'amour du Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, nous sommes tous morts. Il est mort pour nous tous, mais nous sommes tous morts dans le péché, et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et qui est ressuscité. Il est mort dans un grand but. Il a traversé ses épreuves dans un grand but, et cela devrait nous transformer, dit Paul. Nous devrions voir ce qu'il a fait et reconnaître que ce n'était pas en vain. Il y a une grande récompense si nous vivons de cette manière. C'est pourquoi désormais nous ne connaissons plus l'homme selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, désormais nous ne le connaissons plus. Si donc quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses deviennent nouvelles, ce qui n'est possible qu'avec tout ce qu'il a enduré. Et tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, à savoir que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs offenses, et qu'il nous a confié la parole de la réconciliation, signifiant échange ou rétablissement de la faveur. Oh, nous avons vécu des vies qui n'ont pas obtenu la faveur de Dieu, et cette défaveur existerait encore si nous ne pouvions pas recevoir la repentance. Si nous ne pouvions pas recevoir le pardon. Si nous n'avions pas pu recevoir la réconciliation. Nous sommes réconciliés avec Dieu par ce que Christ a traversé. Un autre point similaire ici, mais exprimé d'une manière différente. Nous sommes rachetés de la pénalité de la loi. Rachetés de la peine de la loi. Le monde aime à dire que nous sommes libérés de la loi. Vous savez, nous n'avons plus à observer la loi. Nous n'avons plus à observer les jours saints. Nous ne sommes pas obligés de nous réunir le jour du sabbat. Nous pouvons manger tout ce que nous voulons. Nous ne sommes plus sous la loi. Non. Nous ne sommes plus sous le coup de la loi à cause de ce que Christ a subi. Galates, chapitre 3. Il est difficile de penser à cette première liste, mais sans elle, cette deuxième liste ne serait pas possible. Galates 3, 10. Tous ceux qui pratiquent les œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: maudit soit quiconque ne met pas en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. En d'autres termes, si vous enfreignez un seul petit élément, vous avez tout enfreint. Christ l'a compris. Il savait qu'il ne pouvait pas pécher, même dans un seul petit élément, parce qu'alors il serait maudit, et nous n'aurions pas de sauveur. Or, il est évident que nul n'est justifié par la loi aux yeux de Dieu, car le juste vivra par la foi. Nous avons tous péché. La foi est un sujet différent mais étroitement lié. La loi ne vient pas de la foi, mais l'homme qui la met en pratique vivra par elle. Nous continuons à observer la loi du mieux que nous pouvons. Et lorsque nous manquons à nos devoirs, nous avons des dispositions pour y remédier grâce à ce que Christ a enduré. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Cela ne veut pas dire que la loi elle-même est maudite, mais que nous avons été libérés de la sanction de la loi. Le salaire du péché, c'est la mort, a dit Paul ailleurs, dans l'Épître aux Romains, je crois. Ayant été fait malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu à un arbre. Il a été maudit à notre place. Il a subi la peine de mort à notre place. Il est passé par toutes ces choses pour que nous n'ayons pas à le faire. Il a donné sa vie pour ses amis au lieu de ses ennemis. Sinon, nous aurions tous vécu nos 310 ans et ce serait tout. Colossiens, chapitre 2. Colossiens 2. Méfiez-vous, prévient Paul. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne vous égare par la philosophie et par de vaines tromperies, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon Christ. Car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous êtes complet en lui, qui est le chef de toute principauté et de toute puissance. C'est en lui que vous avez été circoncis par la circoncision faite sans main, en vous dépouillant du corps des péchés de la chair par la circoncision du Christ. Vous avez été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes ressuscité avec lui par la foi en l'opération de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. S'il n'est pas mort et n'a pas été ressuscité, nous ne pouvons pas non plus mourir spirituellement, en termes de vieil homme, et devenir cette nouvelle créature dont nous venons de parler. Il devait mourir pour être ressuscité à une vie nouvelle, pour ouvrir la voie à notre résurrection à une vie nouvelle. Vous avez été enseveli avec lui par le baptême, et vous êtes ressuscité avec lui par la foi en l'opération de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Et vous, qui étiez morts? Quelle opération? Je veux dire, parfois, si nous nous arrêtons et que nous regardons ces mots, la foi de l'opération de Dieu. Dieu est tout simplement capable de ressusciter des gens d'entre les morts. Nous pouvons considérer que cela va de soi, mais je veux dire, quel genre de capacité ces êtres ont-ils? Dans quelle capacité allons-nous puiser? Et vous, qui étiez morts dans vos péchés et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a ressuscité avec lui, en vous pardonnant toutes vos offenses, et certains d'entre nous peuvent se dire « Amen ». Vous savez, ce péché est trop grave. Dieu ne peut pas le pardonner. Je veux dire, je suis une exception à la règle. Si je peux vous rassurer à ce sujet, c'est. Je ne vous attaque pas, mais c'est une vanité parce que vous avez ici un être divin qui est prêt à mourir collectivement pour tous les péchés de l'humanité, passé, présent et futur. Et nous allons dire, eh bien, le mien est tout simplement trop grand. Oui. Devons-nous prendre le péché au sérieux? Absolument. Mais devrions-nous penser, jamais, que ce que nous avons fait est tellement inacceptable que Dieu ne pourrait jamais nous pardonner? En soi, cela prouve que nous n'avons pas commis le péché impardonnable. Si nous sommes insensibles à ce péché et que nous continuons à le commettre, c'est là que c'est dangereux. Mais c'est toujours « Oh, je ne peux pas être pardonné pour ceci ou cela. » Oh, non, il a pardonné toutes les offenses. C'est écrit au verset 13. Verset 14. Il a effacé l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous et qui nous étaient contraires. Vous savez, toutes les infractions que nous avons commises et qui ont été enregistrées, et il l'a fait disparaître, en la clouant à sa croix. Et ayant dépouillé les principautés et les puissances, il les a livrées ouvertement en spectacle, en triomphant d'elles par sa croix. Il a été victorieux jusqu'à son dernier souffle. Il n'a jamais failli. Il était ce sacrifice parfait qui est le portail vers tout ce que nous recherchons, ce qui nous amène au point suivant. Il est passé par tout cela, par tout ce qu'il a enduré, pour nous amener à la vie éternelle. Jean, chapitre 10. C'était nécessaire pour nous amener à la vie éternelle. Jean 10. Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous pensons souvent à une vie abondante dans le contexte d'une vie riche dans ce monde, avec la vérité, avec la connaissance de notre raison d'être, avec la connaissance du plan de Dieu pour l'humanité. Nous observons la loi et avons donc certaines bénédictions. Nous sommes en contact avec Dieu et avons donc certaines bénédictions. Nous vivons déjà une vie abondante, mais l'ultime vie abondante que Christ est venu nous donner est celle dont il a joui, celle qu'il a vécue avant de se dépouiller de tout ce pouvoir et de venir ici. La vie éternelle. Abondamment signifie dans le sens d'être. D'un mot qui signifie au-delà, super abondant en quantité ou supérieur en qualité. Implicitement, excessif, prééminente. Il est venu pour que nous ayons une vie surabondante. C'est incroyable. Cela a dû être très motivant. Cela a dû être une grande partie de la joie qui lui était réservée. Une grande partie de la raison pour laquelle il était prêt à endurer ce qu'il a fait, à endurer ces centaines de choses que nous avons passées en revue au début du message. Il veut que chacun de nous ait une vie abondante. Et, bien sûr, la Bible est remplie de regards sur la vie éternelle, de regards sur la vie éternelle. Nous allons nous pencher sur cet élément particulier de la liste. Ensuite, il a enduré ce qu'il a fait pour vaincre le péché, la mort et le diable. Il a enduré ce qu'il a fait pour vaincre le péché, la mort et le diable. Ces trois éléments sont intimement liés. Hébreux, chapitre 2. Hébreux 2. Hébreux 2, 10. Car il convenait à celui pour qui sont toutes choses, et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de fils à la gloire, de rendre parfait par les souffrances le capitaine de leur salut. Telle était l'opération de Dieu. C'est la méthode qu'il a employée pour parfaire Christ. Il l'a rendu parfait par des souffrances chroniques, pourrions-nous ajouter. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés ne font qu'un. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, en disant, « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'Église. » Et encore, « Je me confie en lui. » Et encore, « Voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Puisque donc les enfants participent, verset 14, à la chair et au sang, lui aussi a participé. Il a dû venir et expérimenter cette existence mortelle que nous connaissons tous, et heureusement, il l'a expérimenté d'une manière qu'aucun d'entre nous n'aura jamais à expérimenter en notre nom. Afin d'anéantir par la mort celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. S'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, cela ne serait pas possible. Il a délivré ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie dans la servitude. Car, en vérité, il n'a pas pris sur lui la nature des anges, Mais il a pris sur lui la postérité d'Abraham. Ces êtres extrêmement puissants, il n'est pas devenu comme l'un d'entre eux. Il ne s'est pas abaissé, vous savez, d'une Ferrari à une Corvette. C'est une mauvaise analogie, mais il s'est vraiment abaissé au point de devenir un être humain. Vous savez ce que c'est que d'être humain, frères et sœurs, nous savons tous ce que c'est, mais il s'est abaissé de la manière la plus extraordinaire, en prenant la semence d'Abraham. C'est pourquoi, en toute chose, il a dû être rendu semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu. Il voulait savoir ce que c'est que d'être capable de s'identifier à nous. Il voulait savoir ce que c'est que d'être capable de s'identifier à nous. Il est passé par tout cela pour pouvoir s'identifier à nous. Vous connaissez le vieil adage, mettez-vous à ma place. Il est passé par là. Il a marché. Il voulait marcher 1 mille dans nos chaussures pour pouvoir s'identifier à nous, et il était prêt à marcher ce 1 000, il était prêt à passer par tout cela, pour faire la réconciliation pour les péchés du peuple. Car, ayant souffert lui-même d'être tenté, il peut aussi secourir ceux qui sont tentés. Jean 1. Il est venu vaincre le péché, la mort et le diable. Il y a des êtres chers que nous connaissons, nous avons entendu parler dans les annonces d'un homme qui était très spécial pour beaucoup d'entre nous. C'est lui qui m'a conseillé pour m'inviter dans cette église. Sans ce que Christ a fait, nous ne pourrions pas revoir ces personnes, mais grâce à ce qu'il a fait, nous avons une grande espérance, et ils sont faits. Ils ont le meilleur avenir possible. Ils sont mieux lotis que nous à l'heure actuelle. Ils ont réussi. Christ a vaincu le péché, la mort et le diable. Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu, dit Jean, qui ôte le péché du monde. Je l'ai tourné ici parce que enlève est un mot fascinant, à mon avis ou dans mon esprit. Enlever signifie soulever, jeter l'ancre et naviguer au loin. Quelle image mentale! Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est comme s'il avait levé l'ancre et que le bateau était parti au loin. Vous avez déjà vu un bateau aller au port et devenir de plus en plus petit, puis disparaître. C'est le but. Il enlève le péché du monde. Le point suivant. Je pense que c'est le 7e sur ma liste. Christ a enduré tout ce qu'il a fait pour se frayer un chemin vers le Père. Il y a beaucoup de chevauchements ici, naturellement. Il a enduré tout ce qu'il a fait pour se frayer un chemin vers le Père. Jean, chapitre 14. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Si je m'en vais, c'est-à-dire si je meurs, et si je vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous connaissez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Et comment pouvons-nous connaître le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Et il s'agit d'aller. C'est une manière douce de le dire, si je vais. Cela impliquait son sacrifice. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 18. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour l'injuste, afin de nous amener à Dieu. C'était son but. Il savait que nous ne pouvions pas être réconciliés avec le Père. Il savait que nous ne pourrions pas avoir de relation avec le Père s'il ne nous amenait pas à Dieu par ce qu'il a enduré et par le sacrifice qu'il a fait. Ayant été mis à mort dans la chair, mais vivifié par l'Esprit. Hébreux, chapitre 10. Nous n'aurions pas accès au Père si Christ n'avait pas fait ce qu'il a fait. Nous n'aurions pas cette relation. Hébreux 10, 19. Ayant donc, frères, la hardiesse d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, nous avons accès à Dieu par le sang de Jésus, par un chemin nouveau et vivant, qu'il a consacré pour nous, à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. En vérité, Christ est le portail de notre relation avec le Père qui rendra possible tout ce que nous poursuivons. Ayant un grand prêtre pour la maison de Dieu, approchons-nous d'un cœur sincère, dans une pleine assurance de foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Puis le chapitre 4 dit que nous pouvons nous approcher hardiment du trône de la grâce à cause de ce qu'il a fait. Nous n'avons pas besoin d'en faire une version très similaire. En fin de compte, parce que nous avons cette relation avec Dieu, nous pouvons devenir enfants de Dieu. Il a enduré ce qu'il a fait pour que nous puissions devenir enfants de Dieu, pour faire de nous des enfants de Dieu. Galates, chapitre 4. C'est ce que l'on trouve dans toutes les Écritures, bien sûr. Galates chapitre 4, verset 1. Or je dis que l'héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien du serviteur, quoiqu'il soit maître de tout, mais qu'il est soumis à des tuteurs et à des gouverneurs jusqu'au temps fixé par son père. De même, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux éléments du monde. Mais quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya à son Fils, né d'une femme, sous la loi, pour racheter, c'est-à-dire pour acheter, rançonner, sauver de la perte, ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions la filiation. C'est le seul chemin, la filiation. Ce que cet homme a vécu, ce que cet homme, né d'une femme, qui s'est laissé naître d'une femme, qui s'est soumis pour devenir comme la descendance d'Abraham, comme nous l'avons vu ailleurs, lorsqu'il l'a fait, nous avons pu être sauvés, rançonnés, rachetés. Christ a fait ce qu'il a fait pour nous purifier et nous rendre saints. Point 9 ici, nous purifier et nous rendre saints. Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens 5, verset 22, femme. Soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Éphésiens 5, 22, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, et il est le sauveur du corps. C'est pourquoi, comme l'Église est soumise au Christ, que les femmes soient en tout soumises à leur mari. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, quelle est la norme? Et s'est donné lui-même pour elle, afin de la sanctifier et de la purifier par le lavage à l'eau, par la parole. L'étude de la Bible est également un thème très important ici. Connaître la parole, étudier la parole, c'est ainsi que nous devenons propres. Et nous voyons quelque chose, nous agissons, avec l'Esprit de Dieu, soit en nous, soit en travaillant avec nous, nous avançons. Nous grandissons, nous portons beaucoup de fruits, et si nous faisons une erreur, nous comptons sur le sacrifice que nous avons, afin qu'il se la présente comme une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Christ nous a permis d'être purs comme une église, saints comme une église. Il est venu nous délivrer de la société, nous délivrer de ce monde actuel et mauvais. Galates, chapitre 1. Galates 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par l'homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est livré lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer du présent monde mauvais, selon la volonté de Dieu et de notre Père, à qui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Il s'est donné pour nos péchés afin de nous délivrer de ce monde actuel et mauvais. Tout comme cet agneau, dans l'Ancien Testament, a délivré les Israélites de la mort, a délivré les Israélites de l'ancienne Égypte. Nous avons un agneau qui est mort pour nous afin de nous délivrer de ce monde, de cette société qui a désespérément besoin de l'aide de Dieu. Bientôt, nous recevrons l'aide de Dieu à travers nous. Le mot « délivrer » est une traduction assez faible. Elle signifie littéralement que le mot « délivrer », qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous délivrer. Il pourrait nous délivrer de ce monde présent est mauvais, ce qui signifie en fait arracher à ce monde. Il est passé par ce qu'il a fait pour nous arracher à ce monde actuel et mauvais. C'est une urgence absolue. Nous allons vers la mort si nous en faisons partie, et le seul chemin vers la connaissance du Père, le seul chemin vers la vie éternelle, c'est d'être arraché à ce monde par le sacrifice du Christ. Nous sommes en train d'être purifiés en tant que peuple, un peu comme si nous avions été nettoyés. Voici un verset dans ce sens. Acte 20, verset 28, juste un verset ici. Acte 20. Christ a dit, « Je bâtirai mon Église », et nous pensons souvent qu'il l'a bâti à la Pentecôte, la naissance de l'Église du Nouveau Testament, mais il y a une autre façon, une façon extraordinaire dont il a aussi bâti son Église. Acte 20 et 28, l'Église de Dieu. Acte 20 et 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant, Paul s'adressant aux anciens, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Nous avons été achetés. C'est ainsi que l'Église existe. Il n'y aurait pas d'Église qui continue dans l'éternité, des gens qui vont à la vie éternelle, si nous n'avions pas été achetés. Christ a fait la paix par son sacrifice. Le chapitre 1 de Colossiens, alors que nous commençons à conclure ici, a fait la paix. Colossiens 1, verset 15. Christ est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, 15. Le premier-né de toute créature. Car c'est par lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, qu'il s'agisse de trônes, de dominations, de principautés ou d'autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et c'est par lui que tout subsiste. Il est la tête du corps, de l'Église, autre mode d'existence de l'Église, qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose il ait la prééminence. Car il a plu au Père que toute la plénitude habite en lui. Vous pensez à ce que nous avons appris récemment au sujet des 24 anciens qui ont dit « L'agneau est digne de recevoir le pouvoir. Il a traversé ses épreuves pour contribuer à sa propre récompense. Le Père a voulu qu'en lui habite toute la plénitude. Ayant fait la paix par le sang de sa croix, il s'est réconcilié toutes choses avec lui-même, qu'il s'agisse des choses de la terre ou des choses du ciel. » Cette paix avec le Père ne serait pas possible si nous n'avions pas ce médiateur, si nous n'avions pas ce réconciliateur, si nous n'avions pas ce souverain sacrificateur. Ayant fait la paix par le sang de sa croix, en se réconciliant toutes choses avec lui-même, par lui, dis-je, qu'il s'agisse des choses de la terre ou des choses du ciel. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre esprit, nous étions tous ennemis de Dieu, volontairement ou involontairement, surtout involontairement, nous étions tous ennemis de Dieu, dans votre esprit par des œuvres mauvaises, mais maintenant il vous a réconciliés. Nous ne pourrions pas avoir cette paix. Nous serions toujours ennemis de Dieu. Pensez-y. C'est une bien mauvaise position, celle d'un ennemi de Dieu, si Christ n'était pas passé par là. Dans le corps de sa chair, par la mort, afin de vous rendre saint, irréprochable et irrépréhensible à ses yeux. Si vous demeurez dans la foi ferme et bien affermie, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile, la grande bonne nouvelle que vous avez entendue, cette bonne nouvelle, nous le comprenons mieux que jamais, et qui a été prêchée à toutes les créatures qui sont sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait le ministre. Qu'en est-il de ceci? Nous n'avons pas le temps de les citer tous, mais pour purifier nos consciences des œuvres mortes, Christ est passé par toute cette longue liste pour purifier notre conscience des œuvres mortes. La Pâque est une période unique de l'année. Nous faisons table rase du passé. Dans un certain sens, nous sommes libérés d'un poids énorme. Même si nous pouvons absolument nous repentir et que Dieu nous pardonnera à n'importe quel autre moment de l'année, c'est un moment unique. C'est un service unique, une rétrospective unique de ce que Christ a fait pour nous. Hébreux 9, 13. Nous pourrions voir comment il s'agit d'une démonstration de la miséricorde de Dieu, ou nous pourrions voir comment Christ a fait ce qu'il a fait pour obtenir la rédemption éternelle pour nous, et pas seulement la rédemption. En fait, nous sommes ici même. C'est ici, dans les Hébreux 9 et 11. Nous mettrons ces deux éléments dans le même sac. La rédemption éternelle et la purification de notre conscience des œuvres mortes. Verset 11. Hébreux 9, 11. Mais Christ, étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cet édifice, et qui n'est pas entré par le sang des boucs et des veaux, mais par son propre sang, est entré une fois dans le lieu saint, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ce qui veut dire une rédemption perpétuelle. Il a payé notre rançon, une rançon perpétuelle, de nous. Car si le sang des taureaux et des boucs, la cendre d'une génisse et l'aspersion des impurs sanctifient pour purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui s'est offert lui-même sans tache par l'Esprit éternel, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir la vie de Dieu? C'est pourquoi il est le médiateur du Nouveau Testament, afin que, par sa mort, pour la rédemption des transgressions commises sous le Premier Testament, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse d'un héritage éternel, dans le Nouveau Testament, rendu possible par ce qu'il a fait. En effet, là où il y a un testament, il faut nécessairement qu'il y ait aussi la mort du testateur. En effet, un testament a de la force après la mort des hommes. Sinon, il n'a aucune force tant que le testateur vit. Je vous invite à trouver le vôtre où il établit un lien spécifique entre le sacrifice du Christ et la récompense, comme dans l'Apocalypse où nous sommes rois et prêtres, à cause de ce qu'il a traversé. Nous sommes unifiés grâce à ce qu'il a traversé. Nous avons la formidable espérance du salut. Nous l'avons envisagé dans un sens à cause de ce qu'il a traversé. Nous avons quelqu'un qui intercède pour nous à cause de ce qu'il a traversé. Christ a dit, « Je dois aller mourir pour vous envoyer le Saint-Esprit. » Nous ne pourrions pas avoir le Saint-Esprit s'il n'avait pas vécu ce qu'il a vécu. Nous ne pourrions pas avoir confiance dans le jour du jugement, et ainsi de suite. Comme je l'ai dit, il est impossible d'être exhaustif sur un sujet comme celui-ci. Mais nous avons au moins effleuré la surface. J'ai trouvé utile, dans mon étude personnelle, de parcourir cette première liste. Peut-être voudrez-vous le faire pendant votre temps libre, mais lisez simplement, sous forme de puce, tout ce que Christ a enduré, puis lisez la deuxième liste. Tout cela a été rendu possible par ce qu'il a traversé. J'espère que ces deux listes vous seront aussi utiles qu'elles l'ont été pour moi. Le sacrifice du Christ, mes frères, la volonté du Père et du Fils de nous donner ce grand sacrifice, est la porte d'entrée de tout ce que nous cherchons à accomplir. Souvenons-nous de ce qu'il a fait et pourquoi.